Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Actualité en perspective dans Dimanche midi. Yaoundé accueille les 26 et 27 novembre prochains la deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral. Les scrutins de 2025 et 2026 entrent dans leur phase préparatoire et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio honorable Dieudonné Bellay Amougou, membre du conseil électoral à Elections Cameroun. Bonjour, monsieur le membre.
Bonjour, madame.
Alors, monsieur le membre, qu'est-ce qui justifie la tenue de ces assises?
Nous avons tenu à organiser ces assises parce que le cycle électoral est assez particulier. Les années précédentes, il s'agissait d'une élection, mais pour la période qui arrive, c'est une série d'élections. Nous partons de 2025 à 2026 pratiquement, et toutes les élections pratiquement vont y passer, à savoir la présidentielle, les législatives, les municipales et éventuellement les régionales. C'est pour dire qu'il était important pour Elections Cameroun dans son ensemble et le Conseil électoral en particulier de tenir ces assises parce que l'information s'agissant des dispositions légales qui régissent les élections, que ces dispositions-là soient à la portée de tous et connues de tous. Deuxièmement, il est question pour Elections Cameroun de fédérer les énergies, de fédérer les volontés qui se manifestent sur le terrain, de façon à ce que cette période électorale-là, qui est assez longue et importante, qu'elle soit non pas une période d'activité uniquement exclusive à Elections Cameroun, mais que ce soit une activité qui soit partagée. C'est pour cela que, conformément aux dispositions du Code électoral, qui prévoit que le Conseil électoral organise des concertations, nous avons pensé que ces concertations se tiennent maintenant, à la veille de cette période de grande échéance.
Vous convoquez les autres acteurs du processus électoral. De qui s'agit-il concrètement?
Il s'agit de l'administration dans son ensemble. Il s'agit du ministère de la Justice parce que ce ministère-là a un rôle particulier, notamment dans le contentieux. Nous avons les partis politiques qui sont des acteurs principaux parce que c'est en leur faveur.
Tous les partis politiques sont-ils convoqués?
En principe, tous les partis politiques, mais notamment ceux qui sont légalisés. Nous attendons le maximum pour que, justement, nous puissions, conformément au thème, avoir un processus électoral apaisé et une gouvernance démocratique un peu plus avérée.
Et à propos justement du thème, le dialogue électoral pacifique comme pilier de la gouvernance démocratique à la veille des rendez-vous électoraux de 2025-2026, qu'est-ce qui justifie le choix de cette thématique?
Il est important qu'il y ait dialogue entre les différents acteurs. Il y a un dicton qui dit que le sage voit le danger de loin, mais il ne s'agit pas de ça pour être plus sérieux. Nous sommes là pour organiser, et la meilleure organisation commence par l'anticipation. Nous voulons donc éviter que, pendant cette période-là, qu'il y ait des dérapages de toutes sortes, des conflits, et notamment ce que nous remarquons et que nous regrettons sur les réseaux sociaux, à savoir les discours un peu à l'écart de la norme, des discours de haine, des discours violents, et nous voulons nous accorder pour que, en cette période de campagne électorale, que le dialogue soit un dialogue responsable, assez sain et orienté vers une seule et même chose, les élections, avec en fond la paix dans notre pays.
Votre mot de la fin?
J'invite tous les acteurs du processus à y prendre part. Et on a souvent l'habitude d'oublier que les médias sont un acteur majeur parce que c'est à travers eux que le message est envoyé de façon neutre. Et nous les convions véritablement à prendre part parce que, de plus en plus, nous avons des déformations des messages que nous répercutons dans la société. Et il est bon que les médias prennent part également à cette concertation de manière à faire répandre le message, l'état d'esprit, ainsi que la volonté des acteurs du processus électoral au Cameroun à faire en sorte que notre démocratie soit une réalité, et une réalité toujours en construction.
Honorable Dieudonné Bellay Amougou, membre du Conseil électoral Elections Cameroun, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV.
C'est moi qui vous remercie.
Conversation avec mon voisin. Capture des faits de société sous forme d'éphémérides.
À quoi sert un ministre? Quelle est la définition du mot ministre? Nos deux voisins se lancent dans une explication de texte où le sérieux le dispute à une pointe de cynisme. Ils évoquent également la qualité du service dans les hôpitaux publics ou la relation que nous avons avec le danger. Voici Conversation avec mon voisin, une chronique de Valérie Dikos Oumaro.
«
Il y a des mots dont la définition a évolué avec le temps et dont la compréhension n'est plus tout à fait la même qu'au début. Prenons un mot au hasard, le mot « ministre ». Oui, oui, c'est un mot choisi au hasard. À l'origine, le mot « ministre » veut dire « serviteur », celui qui est au service des autres. La religion est passée par là et le mot « ministre » a désigné celui qui est chargé de tout ce qui concerne le culte. Les prêtres, les pasteurs sont ainsi des ministres du culte. La politique est aussi passée par là et le ministre désigne une personnalité, membre d'un gouvernement chargé d'administrer les affaires de l'État dans un domaine bien précis. Ces définitions ont en commun de ne pas changer le rôle du ministre. Il est un serviteur, il accomplit une mission. En politique, nous savons tous que les ministres ne se prennent pas du tout pour des serviteurs. C'est même le contraire. Au Cameroun encore plus, le ministre est une sorte de souverain, entouré d'une cour spécialisée en courbette et génuflexion qui lui donne du « excellence » 6 fois dans 2 phrases. N'allez surtout pas lui dire qu'il est censé être un serviteur. C'est la brouille assurée. Il y en a qui peuvent même aller au-delà de la simple brouille. Mon voisin sourit lundi lorsque je le rencontre. Mes définitions du mot « ministre » l'amusent et il y ajoute son grain de sel. Mon cher voisin, il y a des ministres qui détestent les voix discordantes. Ils n'aiment pas vous entendre dire que le secteur dont ils ont la charge est moribond. Ces adeptes du journal des bonnes nouvelles tiennent en horreur la critique et la remise en question. Quand mon voisin, cet inconscient, a voulu m'en citer quelques-uns, j'ai pris mes jambes à mon cou. Mardi, mon voisin m'apprend que Yaoundé abrite une réflexion sur la qualité du service dans les hôpitaux publics. Et je me prends à rêver que dans nos hôpitaux, on nous accueille avec le sourire, la gentillesse et la bienveillance. Que nos infirmiers vont cesser de nous gronder au lieu de nous parler. Que les médecins seront désormais des vrais soignants et non des businessmen. Que les allées et les salles, les toilettes et tout cela seront propres. Mon voisin me réveille brutalement et me conseille de ne surtout pas tomber malade. La réalité pourrait me tuer. Mercredi, les fouilles sur le site du glissement de terrain à Chang sont stoppées. 12 corps retirés et 12 familles qui ne verront peut-être jamais les corps des leurs. La presse dit que ce sinistre était prévisible. Sans doute. Tout comme il est prévisible qu'en cas d'incendie, certains gratte-ciels de Yaoundé ou Douala seront des mouroirs. Nous le savons tous, mais nous comptons sur la providence. Le risque, le danger sont notre lot quotidien. Mon voisin me parle souvent du miracle permanent. Jeudi, mon voisin me rappelle que nous avons déjà parlé ici de ces contrôles de police ou de gendarmerie sur nos axes interurbains. Plus de la moitié sont illégaux. Et rien ne change. L'autre jour, c'est le président de la commission de la CEMAC qui en parlait comme d'un frein à l'intégration sous-régionale. Allez savoir quel malin plaisir certains ont à compliquer la vie à leurs semblables. Vendredi, c'est aussi un sujet dont nous avons souvent parlé ici, mon voisin et moi. Le réseau de téléphonie mobile est exécrable. Il y a eu des tournées, des réunions, des inspections d'équipements. Aucun changement. Nous allons nous y habituer, nous y faire. Mais jusqu'à quand? Nous payons cher pour un mauvais service. Notre addiction au téléphone est malheureusement un atout pour les opérateurs qui nous tiennent, pour ainsi dire, par le bon bout. Votre semaine a sans doute été meilleure que la nôtre. À dimanche prochain.
Dimanche midi, l'invité de la rédaction.
Absentéisme chronique, 1172 personnels sanctionnés. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a signé lundi dernier une série d'arrêtés portant révocation de certains fonctionnaires et licenciement des agents de l'État relevant du Code du travail, portant à 3577 le nombre d'agents publics sortis des effectifs de la fonction publique. Cette opération d'assainissement rentre dans le cadre de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État. Le ministre Joseph Ley sera face à la rédaction dans quelques instants. Bonjour, monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et bienvenue sur le plateau de Dimanche Midi.
Bonjour, madame Florence Mouquet, merci de nous recevoir à Dimanche Midi.
Vous venez de signer une série d'arrêtés portant révocation de certains fonctionnaires et licenciement des agents de l'État. Quelle en est la teneur, monsieur le ministre ?
Conformément aux textes réglementaires et législatifs en vigueur et en application des hautes directives du président de la République, nous avons... Suite à l'opération Copé qui a eu lieu en 2018 et 2019, nous avons convoqué 8766 agents publics, fonctionnaires et agents de l'État ou contractuels d'administration confondus. Nous leur avons adressé des demandes d'explication et après plusieurs relances, nous n'avons pu recevoir que 601 personnels qui ont répondu à nos demandes d'explication. Nous avons tenu par la suite des conseils de discipline de la fonction publique, plusieurs sessions de ces conseils. Et au terme de ces sessions, 350 agents publics ont été repris en solde. Tous les autres ont été soit licenciés, soit révoqués parce qu'ils nous apportaient des documents qui ne permettaient pas de clarifier leur situation. C'était en général de faux documents. À ce jour, au moment où nous parlons, nous sommes à 3577 agents publics révoqués ou licenciés. Je dois dire que ce n'est pas tout, parce que nous attendons des services du Premier ministre des décrets qui révoquent ou qui licencient les personnels des catégories A1 et A2 qui brillent par leur absentéisme. Donc, il s'agit d'aller vers la finalisation de cette opération pour que, d'ici au 31 décembre 2024, tous ces déchets soient sortis du fichier solde et personnel de l'État.
Monsieur le ministre, sur plus de 8700 agents publics mis en cause, seuls 601 ont répondu aux demandes d'explication écrites. Il y a manifestement un problème, monsieur le ministre. Le reste n'est-il pas à reverser dans le registre des fonctionnaires fictifs ou décédés ?
Je crois que c'est à ça qu'il faut penser. Parce que voyez-vous, depuis 2018-2019, ces personnels ont été suspendus de solde. Quelqu'un qui est suspendu de solde et qui est là et qui travaille devrait normalement revenir vers nous se plaindre. Vous voyez qu'il n'y a que 601 personnels qui sont revenus. Ça veut dire que tous les autres, plus de 8000, sont dans la nature. Soit c'était des agents publics fictifs, soit alors ils sont sous d'autres cieux, je ne sais pas lesquels, et c'est pour ça qu'ils doivent être sanctionnés. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour les rappeler à l'ordre, pour leur demander de revenir se présenter au conseil de discipline de la fonction publique, mais nous ne les voyons pas. La tolérance administrative n'a que trop duré.
Dans le cadre de cette opération d'assainissement, certains mis en cause ont présenté de faux documents à l'effet d'induire l'administration en erreur. Comment comptez-vous venir à bout de cette gangrène? Faux documents, absentéisme chronique, indiscipline généralisée dans les administrations. Comment, au niveau de la fonction publique, vous comptez venir à bout de tout cela?
D'abord, la lutte contre les faux documents, faux diplômes et autres. Nous sommes en train de finaliser la mise en place d'un système qui nous permet de vérifier l'authenticité des parchemins et autres diplômes qui nous sont présentés par les candidats aux divers concours administratifs. Et cette plateforme d'authentification va donc nous permettre d'aller désormais très vite.
Monsieur le ministre, jusqu'où comptez-vous aller?
Jusqu'au bout. Je vous dis que là, nous sommes dans le cadre de l'apurement du dossier Copé. Nous devons l'apurer d'ici le 31 décembre au plus tard. Parce que Aigle, qui va démarrer le 1er janvier, doit démarrer avec des données assainies.
Vous êtes en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, monsieur le ministre. Et si le débat était ailleurs, pourquoi ces fonctionnaires partaient-ils, monsieur le ministre?
J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que ce soit moi qui vous donne la réponse à cette question. Ils ont certainement leur raison. Mais nous constatons quand même que ces messieurs et dames partent après que l'État les ait formés à coups de millions de francs CFA. Nous venons aussi de constater un autre phénomène. C'est que ces messieurs et dames partent après avoir touché des rappels ou alors après avoir pris des crédits dans les banques Et la plupart de ces banques nous saisissent, mais nous sommes impuissants, nous n'y pouvons rien. Parce que lorsque Mme Florence Mackay va contracter un crédit dans je ne sais quelle banque, c'est une affaire entre la banque et Mme Mackay. L'administration n'est pas concernée. Pourquoi ils partent? Je suppose que c'est le rêve d'un Eldorado qui serait ailleurs.
Les conditions ne sont pas toujours réunies.
Ah, n'est-ce pas? Nous constatons aussi que certains commencent à se plaindre. Nous voyons dans les réseaux sociaux parce qu'ils sont parfois refoulés. Et nous avons également déjà été saisis plusieurs fois par les administrations de ces pays-là pour l'authentification des soi-disant parchemins que ces jeunes gens amènent.
Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre?
Ce que nous faisons, mais ça nous donne justement des arguments pour non seulement sévir, parce que nous savons donc, ah bon, monsieur ou madame tel est à tel endroit. Et nous saisons donc les autorités de ce pays, via par exemple le ministère des Relations extérieures, pour que nous ayons une situation qui nous permette de sévir par rapport aux questions de discipline au niveau de ce que prévoit le statut général de la fonction publique de l'État.
L'opinion s'interroge sur ces sanctions qui tombent pratiquement 6 ans après. Pourquoi avoir attendu tant de temps pour sanctionner les absentéistes?
Il s'agit d'un long processus qui nous amène à nous assurer que toutes les conditions sont remplies. On ne licencie pas du jour au lendemain. On ne révoque pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus qui commence par la demande d'explication. Lorsque l'agent public répond à la demande d'explication, nous examinons celle-ci, nous le traduisons au conseil de discipline de la fonction publique qui va statuer sur son cas. Je vous ai également pris les cas de ceux qui se disent avoir été malades. Nous saisissons le Conseil national de santé à travers le ministre de la Santé publique. Ces instances doivent statuer et nous devons également véritablement nous assurer que tout est fait de telle sorte que l'État ne se retrouve pas en justice demain parce que ces agents qui auraient été injustement sanctionnés pourraient traîner l'État devant les tribunaux administratifs et parfois même au pénal.
Monsieur le ministre, votre mot de la fin?
Je voudrais dire que l'État ne faiblira jamais face à ce genre de situation. L'indiscipline, l'absentéisme ne peuvent plus être tolérés. Voyez-vous, s'agissant de l'opération Copé, ça date quand même de 2018-2019. Nous avons voulu mettre tout en œuvre pour nous assurer que ces personnels existent ou qu'ils pourraient revenir. Mais rien n'y a fait. C'est pour ça que nous devons, avant la fin de cette année, nettoyer totalement ce fichier solde et personnel de l'État. Évidemment, la porte reste ouverte. Ceux qui se sentiraient lésés par l'opération, ils ont la possibilité de nous saisir, de saisir le Conseil supérieur de la fonction publique. Évidemment, il faudrait que cela ait des arguments. Je me demande d'ailleurs combien ils seront, combien le feraient, parce que après 5-6 ans, je serais étonné que quelqu'un soit resté attendre la révocation ou le licenciement avant de nous saisir, avant de tenter un recours gracieux. Donc, je voudrais simplement dire aux agents publics, soyons conscients de notre responsabilité. Nous sommes chargés d'une grande part dans le processus de développement de notre pays. Les personnes qui doivent développer ce pays ne viendront pas de la planète Mars et ne tomberont pas du ciel. Ces agents-là, c'est nous tous. L'État met tout en œuvre pour que les conditions de vie et de travail de ses agents s'améliorent au quotidien. Il n'y a pas d'Eldorado ailleurs. Il y a l'illusion des salaires peut-être bien payés là-bas, mais que nous sachions qu'il s'agit des sociétés de consommation essentiellement, c'est-à-dire que tout ce que vous gagnez, vous le laissez là-bas. Lorsqu'arrive le moment de la retraite, vous vous retrouvez au point zéro, au point de départ. Ce qui est considéré comme petit salaire que nous gagnons ici au pays, c'est très important. Parce que lorsqu'on est fonctionnaire ou contractuel d'administration, on va le gagner pendant toute sa vie. Lorsqu'on va à la retraite, on a sa pension. Et même lorsqu'on meurt étant à la retraite, vos ayants droit ou vos ayants cause vont profiter de ce que vous aurez cotisé au niveau de l'État. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, l'Eldorado, c'est ici chez nous. C'est peut-être un peu difficile, mais il nous appartient de nous battre pour améliorer les conditions en travaillant plus et mieux. Lorsque nous produisons beaucoup, l'État va avoir les moyens pour améliorer nos conditions de travail. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici, au Cameroun.
Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Ley, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV.
C'est nous qui vous remercions. Nos portes vous sont ouvertes. Nous avons encore beaucoup de chantiers et nous comptons sur vous pour nous aider à informer l'opinion publique et notamment les agents publics camerounais.
Bon dimanche.
Dimanche midi, le dossier de la rédaction.
Les hôpitaux publics au Cameroun seraient-ils de grands malades? Ces formations hospitalières souffrent de plusieurs maux qui gangrènent leur fonctionnement. Mauvais accueil des malades, insalubrité, insuffisance du personnel médical, des problématiques et bien d'autres qui ont meublé le tout premier forum de la conférence des hôpitaux tenue cette semaine à Yaoundé. Quelle thérapie pour venir à bout de ces plaies qui ternissent l'image de nos hôpitaux publics? Immersion dans les hôpitaux publics, Marie-Claire Messi, Ekobena, reportage.
Le bilan de santé des hôpitaux publics au Cameroun permet de déceler plusieurs pathologies. Ces formations sanitaires sont confrontées à de nombreux défis qui affectent leur capacité à offrir des soins de qualité à leurs patients.
Lors de mon premier accouchement, j'ai été très mal suivie et j'ai eu des séquelles qui m'ont traumatisée. Le service n'est pas de qualité comme dans les hôpitaux privés. C'est vrai que les prix sont plus bas, mais il s'agit quand même de la santé, de la vie des individus.
Le problème, c'est de privilégier l'argent au lieu de privilégier le malade.
Le 31 décembre, on m'a fendu la tête à une maquette. Je suis arrivé, je saignais. Pour qu'on me prenne en charge, on m'a demandé de l'argent. Or, on m'a agressé, on m'a tout pris. Ils ont été obligés d'appeler avec le téléphone une infirmière pour qu'on m'envoie de l'argent. Dans le téléphone, l'infirmière, qu'on commence à me prendre en charge. Vraiment, l'accueil est à revoir.
Des défaillances qui ont des conséquences graves sur la santé des malades. Pour bénéficier d'une meilleure prise en charge, certains optent pour le secteur privé.
Ce sont les mêmes médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, qui travaillent aussi dans les cliniques. Et ils nous suivent mieux dans les cliniques que dans les hôpitaux publics. Donc, on préfère aller payer cher pour être bien suivi.
Nos hôpitaux mettent l'argent devant l'individu qui a besoin des soins. Il y a des gens qui meurent comme ça manque de prise en charge.
Un diagnostic alarmant qui s'explique par plusieurs facteurs, comme le souligne le professeur Mbou Robinson Eno, directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, et le docteur Hissène Amazia, directeur de l'hôpital régional annexe de Kousséri.
Les ressources humaines efficientes pour travailler est peu. Donc on peut aligner beaucoup de malades pour un médecin qui a peut-être 40 malades devant lui pour consulter. Nous regardons des malades qui viennent, on les prend par rapport à les arrivées. Et c'est une compréhension qui fait en sorte que nous ne sommes pas humanistes. On est humanistes. Le médecin est d'abord pour sauver la vie, sans complaisance. Et il n'y a aucun médecin qui peut dire, j'ai devant moi 40 malades, il voit 20 et s'en va. Ça n'existe pas.
Le plateau technique n'est pas adapté, n'est pas au point. Les hôpitaux sont déserts. On a besoin de faire des résultats, on a besoin d'offrir une prise en charge optimale, adéquate, mais il n'y a pas de personnel. C'est très difficile. Ça pousse l'homme à se surpasser.
Redonner un souffle nouveau à ces grands malades constitue l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics. Pour améliorer la qualité des services dans ces hôpitaux, plusieurs solutions sont envisagées. Docteur Ina Rakia, directeur du centre hospitalier régional de Garoua, et docteur Patrick Ngou, pédiatre.
Compte tenu du niveau de vie des populations de la ville de Garoua, nous avons déjà mis en place des coûts de soins assez bas, accessibles aux populations. Et au cours de l'année, nous réalisons beaucoup de campagnes de consultation gratuite. On essaie d'être au plus proche de notre personnel, déjà par la mise en place de paiements réguliers, de la redistribution des primes et des quotes-parts de l'hôpital.
Il y a des efforts à faire des deux côtés. Les demandeurs en soi ne sont pas toujours au courant de la hiérarchisation des soins, de la compétence dans les soins et de la décentralisation même des soins. Donc, il y a certes des problèmes de communication en interne entre les professionnels de santé. Il y a des habitudes qui doivent changer sur le plan de l'accueil, de l'empathie. Mais ça doit être les deux côtés.
La conférence des hôpitaux tenue cette semaine à Yaoundé sous la présidence du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a permis de passer au scanner tous ces différents mots qui gangrènent le bon fonctionnement de ces hôpitaux et de proposer des mesures correctives en vue de redorer le blason de ces centres hospitaliers. Un moment crucial pour ces professionnels médicaux qui ambitionnent par ailleurs une refondation de ces hôpitaux pour une responsabilité plus accrue dans la chaîne de production des soins de santé au Cameroun.
Les hôpitaux publics de référence, s'il en existe au Cameroun. L'hôpital général de Garoua, par exemple, est à ce jour doté d'un plateau technique relevé qui permet d'offrir aux patients des soins de santé de qualité. Le pôle de neurosciences en est une parfaite illustration. Le carnet de consultation affiche plus de 200 patients reçus par mois. Elie Omeondo.
L'hôpital général de Garoua est une structure sanitaire de première catégorie, la troisième du genre sur le triangle national. Cet hôpital est doté de plusieurs pôles d'excellence, au rang desquels le pôle de neurosciences. Dr Bello Figim, directeur général adjoint de l'hôpital général de Garoua.
Le pôle de neurosciences regroupe un ensemble de disciplines qui sont la neurochirurgie, la neurologie, la psychiatrie et puis la réhabilitation fonctionnelle.
Le service neurologique opérationnel dans l'hôpital général de Garoua fonctionne à plein régime avec en moyenne une cinquantaine de consultations mensuelles. Docteur Hassan Samir, neurologue à l'hôpital général de Garoua.
Nous disposons un plateau de scanner. Nous disposons également des explorations fonctionnelles, notamment l'électroencéphalogramme. Et ces deux entités gèrent en grande partie les pathologies neurologiques. Nous avons au sein de cet hôpital un laboratoire qui arrive à faire énormément de bilans complémentaires.
Quant au service de neurochirurgie, lui aussi opérationnel, c'est des ressources humaines qualifiées pour une prise en charge efficiente des patients qui viennent des régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'Extrême Nord et des pays voisins du Tchad et du Nigeria. Dr Bello Figim, directeur général adjoint de l'hôpital général de Garoua.
Il y a un service de neurochirurgie qui est déjà fonctionnel avec un bloc opératoire qui est équipé. Il a tout ce qu'il faut, un microscope opératoire, un amplificateur de bruyance, une équipe d'anesthésie complète. Sur le plan des ressources humaines, il y a le service de neurochirurgie, je suis là en tant que neurochirurgien, avec une équipe de résidents en neurochirurgie. Il y a le chef de l'unité neurologie, le docteur Hassan Assami. On a le docteur Sidi, qui est neuropsychiatre. Et puis, il y a également l'équipe de réhabilitation fonctionnelle et de psychomotricité.
Toutes les pathologies neurologiques sont prises en charge ici et adressées au grand bonheur des patients et de leurs familles.
Les indications sont beaucoup plus les pathologies complexes et dégénératives de la colonne vertébrale qui sont opérées. C'est des pathologies traumatiques. On a également la pathologie vasculaire. Et par rapport à la pathologie pédiatrique, on fait également beaucoup de neurochirurgie pédiatrique avec les enfants qui présentent des pathologies telles que l'hydrocéphalie ou les dysgraphies. En général, c'est à peu près 200 consultations par mois. Comme intervention, on tourne à peu près une vingtaine d'interventions par mois.
Koulchoumi Amadou, garde malade.
Aujourd'hui, mon cousin a été opéré. Il avait un problème concernant la colonne vertébrale. On a été satisfait. L'opération a duré en quelque sorte 6 heures à 7 heures de temps. Par la grâce de Dieu, là où subhanahu wa ta'ala, il est sorti en bonne santé. Nous remercions le président de la République de nous avoir honorés avec cet hôpital.
L'hôpital général de Garoua est une fierté non seulement pour les populations de la région du Nord qui n'ont plus besoin d'effectuer des voyages périlleux pour aller chercher la santé ailleurs, mais aussi pour les populations du Cameroun qui peuvent désormais soulager leurs problèmes neurologiques grâce au plateau technique de dernière génération disponible. Garoua, Elie Omeondo, dimanche midi.
Dimanche midi, l'invité de la rédaction.
De l'amélioration de la gouvernance hospitalière pour faire de l'hôpital public un hôpital de première intention au service des populations. Parlons-en avec notre invité, le professeur Magloire Biwole Sida, ancien directeur de l'hôpital central de Yaoundé, ancien directeur général adjoint de l'hôpital général de Yaoundé. Il est actuellement impliqué dans la formation des médecins comme enseignant et doyen dans un institut privé de l'enseignement supérieur au Cameroun. L'hôpital public au Cameroun, hier, aujourd'hui et demain, le professeur Magloire Biwole Sida s'entretient avec Nathalie Mvogo.
Professeur Biwole Sida, bonjour et bienvenue à Dimanche Midi.
Bonjour Nathalie.
Vous avez été directeur général adjoint à l'hôpital général de Yaoundé. Vous avez été directeur de l'hôpital central de Yaoundé, puis inspecteur général au ministère de la Santé publique. Oui. Au regard de votre expérience sur le terrain, lorsqu'on parle de conférence des hôpitaux sur le thème hôpital public hier, aujourd'hui et demain, comment réagissez-vous à l'évocation de l'hôpital public?
L'hôpital public, c'est l'hôpital de tout le monde. C'est l'hôpital de première intention. C'est l'hôpital où on vous amène si vous êtes accidenté, que vous avez perdu connaissance. Et quand il n'y a personne qui vous connaît, on vous amène à l'hôpital public. C'est vraiment l'hôpital au service des populations. L'hôpital reste toujours au centre des préoccupations des populations. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'offre de soins, pour améliorer les infrastructures hospitalières et pour également améliorer l'accès aux médicaments et aux soins de qualité.
Professeur, vous avez été le premier médecin à l'ouverture du CHU. Quel élément de comparaison pouvez-vous nous donner?
Beaucoup de choses ont été faites à cette époque avec notre maître, le professeur Wali Mouna, qui a ouvert le CHU avec le professeur Mbédé Joseph, c'était le premier directeur du CHU, tous deux de regrettée mémoire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, la démographie, la population a augmenté, les infrastructures hospitalières, notamment au niveau de la ville de Yaoundé, ont relativement augmenté aussi. Mais à l'époque, le CHU était pratiquement le seul hôpital faisant face et il y avait beaucoup de défis. Le défi de la qualité, le défi de la performance et les résultats avaient également été au rendez-vous.
Il y avait le CHU qui était l'hôpital de référence. Aujourd'hui, il y a les hôpitaux de référence, les hôpitaux généraux, il y a toute une pyramide de formation sanitaire du plus haut niveau au niveau le plus bas, c'est-à-dire les centres de santé intégrés ou les hôpitaux de district. Alors, lorsque vous comparez cette carte sanitaire qui s'est enrichie au fil des ans, est-ce que vous avez l'impression que l'hôpital public a beaucoup évolué pour s'arrimer à la démographie galopante?
Je suis bien placé pour dire que oui. Parce qu'effectivement, en dehors des grandes structures de première catégorie que vous venez de citer, il y a des hôpitaux des régions qui étaient déjà là, mais en plus, le gouvernement a mis des centres hospitaliers régionaux qui sont effectivement des hôpitaux de référence. Vous avez pratiquement un hôpital comme ça dans chaque région. Sur le papier, cette chaîne hospitalière est vraiment bien étoffée. Je dis bien sur le papier. Il y a encore beaucoup de problèmes. Le gouvernement est en train de développer la couverture santé universelle. Cette couverture santé universelle doit pouvoir permettre à chaque citoyen d'avoir recours aux services de santé essentiels sans être exposé à des difficultés financières. La dépense de santé est encore à la charge des ménages. C'est-à-dire les patients payent avec l'argent de leur poche pour avoir accès aux soins. Et donc, à partir de ce moment, il n'y a pas équité. Parce que les plus démunis auront beaucoup de difficultés pour avoir accès aux soins. Alors, on a fait un certain nombre d'expériences. Je pense notamment au CURI, le centre des urgences de Yaoundé. C'est une expérience intéressante parce que le gouvernement, en mettant en place le CURI, permettait aux populations d'être prises en charge en urgence. C'est-à-dire que le soin d'abord, le traitement d'abord et le paiement après.
Parmi les mots décriés, professeur, dans nos hôpitaux publics, il y a justement l'accueil dans les formations sanitaires, l'accueil dans les services d'urgence, l'accueil tout simplement lorsque on arrive à l'hôpital. Vous avez cité le cas du CURI. Quand on va au CURI, c'est qu'on a une urgence. Et donc, quand on arrive, on veut être pris en charge. À votre époque, quelle thérapie avez-vous appliquée pour que la prise en charge ne soit pas conditionnée par le paiement des frais de consultation, etc.?
À notre époque, les ménages continuaient toujours à payer. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, notamment dans les secteurs névralgiques comme la maternité, où une femme peut venir, il faut faire une césarienne en urgence. Et là, nous avons mis des kits qui permettait de faire une césarienne à coût réduit.
C'est le kit se retrouve maintenant dans le panier des soins de la CSU. C'est le même kit.
Je pense que c'est le même kit, parce qu'effectivement, ce sont des stratégies pour alléger le coût. Et ce sont ces stratégies qui doivent être développées et permettre un accès équitable aux populations. En dehors des urgences, il y a même les soins hospitaliers, c'est-à-dire dans les hospitalisations, dans les services d'hospitalisation, on se rend compte effectivement qu'il y a toujours beaucoup de problèmes entre les populations et le personnel soignant et la qualité des soins. Il y a une équation qui n'est toujours pas résolue. Parce que, à mon sens et à mon humble avis, nous devons encore travailler sur la gouvernance hospitalière. Parce que si vous avez un service de maternité, sans chef de service, quand il y a un pépin, une femme qui décède pour négligence, généralement, on interpelle le directeur de la formation sanitaire. En réalité, le directeur d'une formation sanitaire est un administrateur, même si ce sont les médecins. Sa fonction première est administrative. Or, il faut un technicien à la maternité nommé par notre hiérarchie. Et qui peut être interpellé? Monsieur le professeur Tel, vous êtes le chef de service de la maternité. Il y a eu cas de décès. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour qu'il n'y ait plus de pareilles fautes?
L'hôpital d'aujourd'hui, on en parle encore, cette fois-ci pour évoquer la gestion des médicaments. Lorsqu'on a une ordonnance dans une formation sanitaire, on est hospitalisé. Pas évident de trouver les produits pharmaceutiques à l'hôpital. Vous, comme ancien directeur de l'hôpital central, comment gériez-vous le problème d'accès aux médicaments?
L'accès aux médicaments est un problème général. Chaque directeur a essayé de trouver des solutions parce qu'à la base, le gouvernement a mis en place une organisation théorique qui devrait normalement mettre les formations sanitaires à l'abri du besoin des médicaments.
Les médicaments nécessaires.
Il n'y a que la CENAME, Centre national d'approvisionnement en médicaments. Et donc, cette CENAME a quelques problèmes quand même depuis. Parce qu'en principe, dans nos hôpitaux, les médicaments doivent être servis sous la forme la moins chère et la plus efficace. C'est souvent la forme générique.
L'hôpital public a également mal à son service de laboratoire d'analyse médicale pour des examens médicaux qu'on devrait faire en urgence toujours dans les hôpitaux. On est obligé d'aller dans les laboratoires publics ou alors le médecin vous réfère à un laboratoire précis. Est-ce que ce n'est pas un mal profond?
Je voudrais m'inscrire un peu en faux parce que je crois que chaque hôpital fait un effort pour améliorer le laboratoire, les services d'imagerie, qui sont des services qui génèrent les recettes à l'hôpital. Quand vous n'avez pas un quota de personnel par rapport à la population, évidemment, vous comprenez très bien que la charge de travail, la pénibilité est augmentée et la qualité de l'accueil va évidemment prendre un coup.
Et quand vous avez un plateau technique parfois obsolète, vous arrivez et on vous dit le scanner est en panne, il faut aller faire le scanner à côté, qui est un hôpital privé.
Oui. Il faut avoir la vision du secteur santé. Le privé et le public doivent être complémentaires. L'hôpital privé peut également être le partenaire idéal pour la promotion du secteur santé.
Actuellement, vous êtes doyen de l'Institut supérieur de technologie médicale, un institut agréé par l'État pour former les médecins, oui, les personnels de santé destinés aux hôpitaux publics comme privés. Le médecin d'aujourd'hui n'a pas les mêmes chances que celui d'hier.
Oui, quand je commençais ma carrière de médecin généraliste, c'était à l'hôpital de Zoétélé. Alors j'étais jeune médecin, on nous appelait médecin-chef d'arrondissement. Le gouvernement donnait chaque année un paquet minimum de médicaments et de matériel pour l'hôpital d'arrondissement. Et c'était comme ça même jusqu'à l'hôpital central.
Un paquet minimum pour gérer les personnes nécessiteuses.
Pour gérer les populations. Et dans le paquet minimum, vous avez les médicaments essentiels. Vous avez la quinine, les antibiotiques, les consommables médicaux.
Les vermifuges.
Vous avez
les vermifuges.
Voilà, c'est ça. Donc, je crois que ça, c'est une action qui a disparu avec le temps.
Professeur Biwele Sidahar, vous êtes actuellement doyen de l'Institut supérieur de technologie médicale. Comme quoi, le médecin, il ne chôme pas. jusqu'à la retraite du travail, il est utile.
Le médecin a un métier fantastique. Hein. Ce qu'on appelle vulgairement l'argent n'a pas beaucoup de place dans ce métier. Même comme un médecin doit avoir une qualité de vie minimale acceptable. Quand nous étions des jeunes médecins fonctionnaires, on avait deux choses. On pouvait être logé et on avait également accès au crédit auto. Je crois que le gouvernement doit faire un effort pour nos jeunes collègues médecins fonctionnaires pour le logement et pour les moyens de transport et de déplacement. Ça les rend plus efficaces, ça permet quand même aussi qu'ils aient un minimum de considération dans la société.
Merci professeur Biouelessida et bon dimanche.
Merci Nathalie, je suis très heureux pour votre invitation et bonne continuation.
Merci.
Dimanche midi, la balade dominicale.
Le saviez-vous, en 2023, le Cameroun a importé près de 250 000 tonnes de poissons pour un montant de 180 milliards de francs CFA. L'information de l'Institut national de la statistique met en lumière le déficit en la matière. Pour répondre à la stratégie nationale basée sur l'import-substitution et le développement des chaînes de valeur dans le secteur agro-pastoral, le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun a lancé un concours de l'innovation technologique AgriTech Innovation Challenge. La finale de ce concours s'est déroulée à Yaoundé et le concours a connu la participation de 20 porteurs de solutions digitales de faire germer les bonnes graines dans les secteurs agro-silvopastoral. Qu'ont-ils de si spécial à offrir ces jeunes talents? Allons voir tout cela dans ce reportage de Gilles-Claude Mbom et Tundi.
Les yeux rivés sur son smartphone, Mohamed Ali vérifie les fonctionnalités de son projet. Tout doit être parfait lors de sa présentation devant le jury. Mohamed n'a pas l'air inquiet. Ça fait 4 ans qu'il travaille sur son application de gestion de ferme.
Nous connaissons tous le phénomène de vol. Notre application permet tout simplement de pouvoir gérer les collectes quotidiennes, gérer la consommation alimentaire, gérer les achats, gérer les ventes. L'application sera en mesure de vous envoyer des signaux, des alertes pour vous dire par exemple que la consommation alimentaire d'aujourd'hui n'est tout simplement pas normale.
L'ingénieur en génie logiciel et ses collègues ne comptent pas rentrer du concours Bredouille. Faire partie des 20 finalistes de l'AgriTech Innovation Challenge est une chance de rayonner. Alors Mohamed a bien préparé son speech qu'il maîtrise du bout des doigts.
Le vétérinaire, quant à lui, n'aura plus besoin de s'encombrer de fiches de suivi. À travers l'application, il pourra désormais faire le suivi à distance et assurer une très bonne santé animale de votre ferme.
La finale du concours est retransmise à la télévision nationale. Un gros coup de pression et de motivation pour ces jeunes qui souhaitent changer le visage de l'agropastoral au Cameroun. Des jeunes comme Pyrrhus Koudjou. Sa solution numérique au service de l'agriculture détermine la qualité du sol et les quantités d'engrais pour les semailles.
L'agriculteur ouvre l'application, il se rend dans son champ et il se géolocalise tout simplement. Et il paye le service avec les moyens de paiement. Et en moins de 4 minutes, il reçoit les résultats. Ça peut être le pH, les matières organiques, le carbone organique, la texture du sol, la température, l'humidité. Et en plus, on fait des recommandations, des suggestions spécifiques pour améliorer la fertilité de son sol, telles que les types d'engrais, la quantité et les techniques de travail.
Un abonnement est requis pour l'analyse de l'espace cultivable. Sa technologie est plus rapide, plus précise et 4 fois moins chère pour la même prestation dans un laboratoire.
Par exemple, un agriculteur Paul qui a 2 hectares de maïs à Bafoussam, dépensant environ 100 000 francs, il obtient un moyen rendement de 3 tonnes, 4 tonnes par hectare. Il paye son service qui est de 15 000 francs. Au lieu que l'agriculteur prélève, envoie, patiente, il paye 65 000 francs. Chez nous, il paye uniquement 15 000 francs CFA.
Le concours lancé en juillet dernier a une double mission. Sélectionner les 10 meilleures initiatives qui vont accroître la production agropastorale nationale, mais aussi réduire la sortie massive des devises. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé près de 250 000 tonnes de poissons pour un montant de 180 milliards de francs CFA. En 2023, la même année, les importations de céréales ont coûté 387 milliards de francs CFA à l'État. Le froment de blé, quant à lui, représente 178 milliards de francs CFA. des sommes colossales transférées vers l'extérieur qui auraient pu créer de grosses industries locales. Mais encore faut-il que les rendements agricoles soient à la hauteur des attentes. L'application Doumar à Delphes se penche sur la question. Sa start-up est basée dans la région du Nord.
Vous pouvez tout simplement lui demander, par exemple, moi je veux faire de l'arachide dans un sol où l'arachide normalement ne peut pas donner sans apport en engrais. Alors lui, il va vous donner des recommandations et des suggestions tout en vous donnant également la quantité.
Vers 11h, le ministre des Postes et Télécommunications fait son entrée dans la pièce où se déroule la grande finale. À ses côtés, le ministre de l'Élevage, celui de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le représentant pays de la Banque mondiale. Les officiels font le tour des stands pour découvrir le génie proposé par cette jeunesse ambitieuse. Puis vint le moment du verdict. Sur les 20 startups, 10 ont définitivement séduit les membres du jury.
The grand winner, the first, is eFarm.cm, promoteur Pamela Bang.
Pamela Bang n'en croit pas ses yeux. La jeune dame de 29 ans décroche le premier prix de cette première édition. L'ingénieur en management agricole de l'université de Bamenda s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2020.
Je n'attendais pas le premier prix, franchement.
J'étais surpris. Sur notre site web, les agriculteurs ont l'habilité pour vendre leurs produits et décider sur le prix.
Jusqu'à 40 millions de francs CFA d'accompagnement de la Banque mondiale. Minette Libom-Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications.
On ne va pas leur remettre des appuis financiers et les abandonner. Nous devons les accompagner pour qu'ils soient des champions parce que nous voulons développer une industrie locale de TIC.
L'accompagnement financier et le coaching vont faire de ces jeunes des capitaines d'industrie pour le décollage du secteur agropastoral.
Dimanche midi, sport.
Au terminus de dimanche midi, DM Sport. Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, le Cameroun sera présent au Maroc. Les Lions indomptables ont terminé en beauté la phase éliminatoire mardi dernier à Yaoundé en battant le Zimbabwe 2-1. Une victoire de prestige pour cette équipe qualifiée depuis la quatrième journée. L'équipe du Cameroun boucle ainsi la phase éliminatoire en tête du groupe J à l'issue d'un parcours presque sans faute. DM Sport porte la signature de Fritz Bayamak. Bon après-midi Fritz.
Bon après-midi Florence. Les Lions indomptables ont bouclé en beauté mardi dernier leur campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mac Brice et ses garçons étaient déjà qualifiés depuis la quatrième journée et n'avaient donc pas l'obligation de battre le Zimbabwe à Yaoundé. Mais ils l'ont fait de la plus belle des manières au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Vincent Aboubakar et Georges Kevin Koudou ont tout réglé à la première manche, complétant ainsi un parcours réussi. Mac Brice, entraîneur sélectionneur des Lions indomptables.
On l'a fait avec moins de difficultés. On a gagné cette qualification. 2 matchs en avant. C'est grâce aux joueurs qui sont très soudés, qui travaillent vraiment bien ensemble, qui sont toujours heureux de venir ici à Cameroun. Même souvent, on a un programme très lourd avec leur club.
Le Cameroun sera donc présent au Maroc pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une qualification acquise 2 journées avant la fin de la compétition. 4 victoires et 2 matchs nuls. Un succès à mettre à l'actif de toute l'équipe. Mais c'est d'abord le succès d'un homme, l'entraîneur-sélectionneur Mac Brice. Thierry Metomo, entraîneur de football et consultant.
Les bons points pour moi, c'est Mac Brice. Mac Brice parce que ça, il faut l'avouer, une équipe est née. Nous voyons une équipe qui arrive à construire le jeu. C'est-à-dire que Mac Brice est venu avec un esprit sur le plan psychologique face à ses joueurs et sur le plan tactique aussi. Donc, il faut apprécier ce qui est fait. On voit la sérénité au niveau de nos joueurs, pas de la générosité et surtout le collectif.
Un collectif que le Belge a pu mettre en place et qui est resté focalisé sur l'essentiel, le jeu sur le terrain. Alain-Georges Betty, président de l'Observatoire de gestion du football africain.
Il ne faudrait pas, dans ce sens, ignorer le rôle déterminant des joueurs qui sont restés concentrés sur l'essentiel. Ils ont fait preuve de courage, de force, de détermination chaque fois que cela était nécessaire. Ce lien de complicité entre les joueurs et leur nouvel entraîneur fait du bien dans la production des bons résultats que nous connaissons en ce moment.
Et pourtant, les difficultés n'ont pas manqué autour de cette équipe depuis l'arrivée du technicien belge à la tête de l'encadrement technique. Confiscation des équipements, contestation du staff, voyage tardif, manque de séances d'entraînement. Beaucoup avaient cru que tout allait partir en vrille. Mais comme un roseau qui plie sans rompre, l'équipe a tenu en ne perdant aucune rencontre. Toute chose qui laisse penser que les Lions indomptables auraient pu mieux faire dans une atmosphère plus pacifiée. Emmanuel Bankolo, analyste et consultant.
Les problèmes de staff ont énormément plombé l'équipe. On aurait pu avoir une équipe beaucoup plus sereine. On aurait pu avoir une équipe qualifiée. Même 3 journées avant la fin de la compétition, on a bien senti que cette équipe pouvait aller un peu plus loin, pouvait donner un peu plus. Mais bon, que dire, dommage. Et on espère simplement que d'ici à là, on aura dissipé tous les problèmes, on aura réglé tous les problèmes, parler d'une seule voix.
Une même voix attendue pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, prévue dès le mois de mars 2025 et où une fois encore, les Lions dominent leur groupe après 4 journées de compétition. 14 points sur 18 possibles, c'est bien, mais tout n'aura pas été parfait. Dès le mois de mars prochain, il faudra faire mieux si on veut être de l'expédition américaine en 2026 et réussir une prestation plus qu'honorable à la phase finale de la CAN au Maroc. Les Lions indomptables sont loin de manquer de ressources. Thierry Motomo, entraîneur de football.
Nous avons connu Balepan, Eno, Atemengue et les autres qui ne cessent d'entrer. C'est encore ouvert. Et puis maintenant, avec la qualification, il y aura certes la Coupe du Monde, mais en même temps, il y aura des matchs amicaux qui vont permettre de pouvoir regarder les autres. Il y a une méthode dans le travail de Mac Brice. Tout faire pour que le groupe soit fort. Maintenant que le groupe est fort, on ajoute petit à petit quelques joueurs. On voit ce qu'ils sont capables de faire. Et ça va nous permettre, peut-être même après la Coupe d'Afrique, d'écarter certains et de faire entrer les autres.
4 mois. Pour retrouver le prochain regroupement, le staff technique dispose du temps pour travailler les points forts, mais surtout combler les lacunes observées pendant ces éliminatoires. Mais les bases mises en place par le technicien belge paraissent bien solides, il faut juste les renforcer.
Beaucoup plus de vitesse dans le jeu, beaucoup plus d'envie dans le jeu. Il y a la vitesse, il y a l'envie, et quand c'est réussi, ce sera super. Maintenant, sur le plan collectif, il faut huiler ce collectif-là. Donc, il faut insister, n'est-ce pas, sur ce travail, que le collectif soit de plus en plus huilé. Et ça va nous donner, n'est-ce pas, satisfaction, ça, je suis très sûr.
Prochain rendez-vous des Lions indomptables en mars 2025, ce sera contre les Swatini pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À dimanche.
Dimanche midi, édition du 24 novembre 2024, entre en gare. C'était une présentation de Florence Meke. Merci de l'avoir écouté. Bon dimanche.